Bonjour, bonjour à tous.
Merci à beaucoup, Émilie.
Alberto.
Bonjour. Michel Mac est au clavier.
Bonjour.
Et notre invité est Mélanie Laurent.
Bravo.
Bienvenue.
Merci.
Bonne année, bonne santé.
Mais
pour Maggie, c'est raté, mais bon.
Dit-il en mourant. Mélanie, notre invitée. J'espère que vous avez bien compris, Père Albert, pourquoi elle est notre invitée.
Mais bien sûr, Nanguy, vous faites bien de le dire vite, parce que je sens que vous n'avez plus de voix. J'apprécie.
Je vois votre générosité.
Oui, bien sûr, je ferai peut-être un miracle pour vous. Voilà. J'apprécie que vous me posiez la question plutôt qu'à ces mots du bulbe qui vous entourent, car avec moi au moins, vous êtes assuré d'une réponse argumentée. Déjà, dans la grisaille gorgée de microbes et de microparticules fines de cet hiver interminable, le sourire de Mélanie... Bonjour, Mélanie Laurent. Ce sourire est pour moi comme une grâce inespérée. Plus suave encore que l'apparition de la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous, plus fascinant que l'hologramme de Dali...
Soubirous,
oui.
En français.
Plus fascinant... Que l'hologramme de Dalida, qui en ce moment, au Palais des Congrès, met en transe les milliers de coiffeurs visagistes et de toiletteurs pour chiens, sans oublier Florian Philippot, venu applaudir leur idole ressuscité. Résurrection qui me ramène à la raison de votre venue, Mélanie, car pour répondre à la question de Nanguy, vous êtes là pour nous parler du spectacle que vous mettez en scène au Théâtre National de Chaillot, le dernier...
Le Chaillot.
Comme le maréchal, je prononce toutes les lettres.
Chaillot.
Soubirous de Chaillot.
Le dernier testament... Mais écoutez, soyez sérieux. Le dernier testament. Un titre qui, bien évidemment, a titillé mon intérêt, puisque de par mon sacerdoce familier de l'Ancien et du Nouveau Testament, j'ai eu hâte de découvrir cet autre testament dont l'adjectif qui l'agrémente est à double sens. Dernier impliquant tout aussi bien le salut. Quel apocalypse. Nanguy, comme je sais que vous attendez de moi un pchit qui vous mâcherait le travail, je vais m'y
pitch,
coller.
Un résumé.
Oui, si vous voulez. En effet, vous m'avez dit, à moitié crevard avant l'émission, je vous cite, « Primo, pas question de me farcir. Les 600 pages du roman de James Frey, dont cette pièce est l'adaptation, j'ai quand même d'autres choses à foutre. Deuxièmement, il n'était pas davantage question que je me tape, malade comme je suis, une pièce de 2 heures. Donc, Père Albert, faites-moi un résumé qui me permettra d'assurer, en faisant croire, comme d'hab, que j'ai tout vu et tout lu. De toute façon, Mélanie Laurent, si je la branche sur la surpêche, la déforestation, le génocide des tourteaux, elle démarrera au quart de tour. Le dernier testament raconte donc la venue au 21e siècle aux États-Unis en proie au racisme, à la misère et à la pollution. Mais oui, des choses terribles, ça se dit sur un ton terrible. D'un nouveau messie nommé Ben. Tant sa personnalité que son histoire, tant ses pouvoirs que son incroyable charisme font évidemment, oui on dit le chorizo donc je dis le charisme, font évidemment penser à Jésus-Christ. Mais, ou un Christ complètement crache, prophète SDF dont les extases mystiques sont mises sur le compte de l'épilepsie. On pense à l'idiot Dostoïevski bien sûr, question pompage, on me la fait pas moi. Certes, Ben renvoie dos à dos d'un côté l'Amérique cyniquement matérialiste à la Donald Trump et de l'autre tous les fanatismes religieux. Mais dans son désir d'amour universel. Voici que Ben se montre altermondialiste, tolérant, libertaire, jusqu'à, au paradoxe pour un messie, se montrer athée et à prêcher l'amour libre, cette dégotation et pire encore, la bisexualité. Et là, interrompant ce pit, ce résumé, je dis stop, Mélanie, stop in the name of God. Tu n'es donc toi aussi qu'une boule de vis décevant qui ne demande qu'à te rouler dans le stupre. Or, je ne sais pas ce qui me retient de t'exorciser en direct, mais comme j'ai plus la force de faire sortir de ton corps le démon qui le squatte, en t'aspergeant avec ma mini-bouteille de cristalline bénite, c'est moi...
Cristalline, ah oui, joli.
C'est moi qui vais sortir de ce studio pour respirer un peu un air pur. Bonne émission quand même.
Merci mon père, allez-en. Allez.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Mélanie, donc vous vous retrouvez...
Il y a Jeanne Moreau dans le studio.
Metteur.
Oui, tous mes amis sont là.
C'est pas vrai, une imitation de plus.
Il a tous les talents, ce mec. Il a tous les talents.
Même malade, il arrive à nous scier.
Quand Lou, tu vois, n'a qu'à bien se tenir.
Donc, vous avez...
C'est Zavata.
Vous avez un peu de respect,
Elle est morte de rire.
Non, mais parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est au bord du gouffre.
C'est nerveux.
Elle va venir vous rejoindre, elle va tomber dedans.
Donc, Mélanie, comédienne, chanteuse, cinéaste, documentariste, et maintenant, on dit metteur, metteuse en scène, comme on dit d'ailleurs en féminin. D'accord.
Je crois qu'on dit les deux.
Ouais, moi je dirais metteuse
en scène.
Metteuse en scène. Ouais, c'est sans doute, ouais.
De ce dernier, testament. Donc vous avez découvert le livre qui, en effet, pèse ses 600 pages. Il y a quoi, 2 ans maintenant, 3 ans?
Un an plus, ah, il y a 6-7 ans quand il est sorti.
D'accord.
Bien avant de commencer à... J'avais même pas encore rencontré Cyril Dion. Et je crois que c'est la première connexion en littérature qu'on a eue, c'est de parler de ce livre. Parce qu'il y a quand même des petites choses du documentaire Demain dans ce livre-là.
Qui est un messie qui redébarquerait au 21e siècle à New York, qui aurait ses miracles. Enfin, un messie au début, c'est pas
oui,
un messie.
Oui, c'est-à-dire qu'il, c'est un junkie.
Voilà, c'est ça.
Qui vit entre les boîtes de pizza et ses bouteilles de whisky. Qui a un accident et quand il se réveille, il se révèle. Donc c'est pas tellement un messie qui pense qu'il l'est. Il passe la pièce à dire... si tu le dis. C'est-à-dire mais... qu'on joue sur le doute
oui,
et que toute
aucune...
foi implique le doute.
Il croit en aucune religion.
Aucune.
Il peut faire des miracles, mais pas sur lui. Oui. C'est aussi ce qui est dit dans la pièce.
Mais l'accident est quand même... c'est pas un simple accident. C'est pas, il se fait pas juste renverser par une voiture en traversant la route.
Il se prend une plaque de verre de 500 tonnes qui lui coupe le cerveau en deux. A priori, le mec n'est pas censé survivre. Comme ça, la vue de nez.
D'après les statistiques.
Donc on ramène des morceaux de corps à l'hôpital et le premier miracle, c'est que 2 semaines plus tard, il est à nouveau là.
Alors, il n'est pas croyant, lui. Hein. Au contraire, il n'aime pas ça. Il y a même une scène d'un repas où il demande de faire une prière, qui est assez drôle, où il se lève, il ne sait pas trop quoi faire. Bon app. Et il se rassoit. La parole divine est faite. Il y a un petit côté libertaire aussi, transgressiste, très libertaire. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a
tout
touché?
Non, ça m'a plu parce que quand j'ai lu le livre, j'ai eu il y a eu un avant et après. Ça m'a beaucoup troublée. J'ai été beaucoup troublée. Je me suis posé la vraie question de la foi pour la première fois, sans passer du tout par une phase mystique dans ma vie, juste en me disant
vous
si
êtes
cet homme,
vous.
Oui, si cet homme existait, est-ce que j'aurais envie d'y croire? Voilà. Et en fait, quand on a fait le documentaire Demain, j'ai rencontré plein de Ben Zion, en fait, de héros comme ça, de personnalités à la fois tolérantes. Douce, calme, qui cherche des solutions, qui ne sont pas dans le jugement, qui sont jamais dans la morale. Donc c'est pour ça que finalement j'ai lu le livre et puis j'ai fait le documentaire. Tout ça était finalement assez logique dans ce que j'ai traversé dernièrement. Mais non, il s'agit pas de parler de religion, il s'agit de parler d'amour. Alors, compliqué en 2017 de parler d'amour.
Ah bah c'est même c'est le dernier mot de la pièce.
C'est un combat.
C'est un je t'aime qui est crié à la fin de la pièce.
Et pourquoi c'est compliqué de parler d'amour? Parce que c'est perçu comme une forme de
naïveté.
Niaiserie.
Ouais. C'est un mot qu'on a du mal à prononcer. C'est un sentiment qu'on a du mal à ressentir même. Donc c'était compliqué. On est passé par plein de phases dans la création.
Et alors comment adapter, parce que vous avez fait aussi le travail d'écriture, vous l'avez co-fait avec Charlotte Farcé, comment écrire, réécrire 600 pages en... t'as compté toi 2 heures de spectacle, toi tu as regardé ta montre,
un petit peu moins,
c'est vulgaire, enfin peu importe, en quelques heures de spectacle, comment faire?
Sacrifice,
miracle. Non, on a beaucoup coupé, on a enlevé quelques personnages, on a essayé de resynthétiser tout et puis j'ai eu la chance inouïe de rencontrer James Frey quand j'ai voulu avoir les droits et lui demander surtout la première chose, c'est est-ce que je pouvais réadapter son texte, donc pouvoir couper dans son texte et pouvoir réécrire des choses de son texte.
Et quand il a demandé un droit de regard, il a demandé
non.
Il vous a fait confiance, en fait.
Ouais, il a été très Ben Zion.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur scène se succèdent des hommes et des femmes qui ont connu,
témoignent.
Qui connaissent ce Ben et qui viennent apporter leur témoignage, comme dans les Écritures saintes, en fait.
Oui, ça
fait
penser aux Évangiles.
C'est exactement, en termes de construction, c'est assez proche. Donc, c'est là, dans ces personnages-là, que vous avez élagué, vous en avez supprimé, vous avez raccourci, comment vous...
On a beaucoup élagué, on a beaucoup réécrit des choses, on a recréé un autre personnage, le personnage du conteur, qui était en fait l'avocat de Ben à la fin. Et puis, Ben, dans le livre, avait plus de discours, c'est un homme plus de discours. Et moi, j'avais envie qu'il y soit. D'abord qu'il ait un jeu très naturaliste, assez discret, et qu'on puisse y projeter beaucoup de choses, parce que c'est compliqué de projeter des choses sur le Messie. Tout le monde va à sa propre histoire. Donc je le voulais assez discret, et donc discret dans ses mots, c'est-à-dire qu'il est là, sa présence suffit normalement, et c'est les gens qui vont vers lui, et non pas le contraire. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir faire la morale et qui va essayer de convaincre. Il arrive et en général il apaise. En fait, le premier miracle, c'est que quand il pose la main sur quelqu'un, la personne se sente bien. Mm-hmm. C'est déjà pas mal.
Ou même quand il la regarde, déjà il se passe quelque chose. Ouais. Il y a donc ce travail d'adaptation, et puis il y a aussi le travail de mise en scène, le travail de mise en lumière. Vous avez dit dans une interview d'ailleurs que vous préfériez le théâtre au cinéma, parce que s'il s'agit, en tout cas pour l'adaptation, pour l'adaptation de ce roman, parce que c'est facile de prendre une chaise et de dire c'est un arbre au théâtre, alors que si on doit imaginer une forêt au cinéma, il faut aller dans la forêt, il faut faire des repérages, et on est contraint de suivre et de montrer ce que l'on veut montrer. Le théâtre est plus ouvert sur l'imaginaire.
Ouais, le cinéma nous force à une sorte de réalisme, alors que le théâtre ouvre un espace onirique extraordinaire. Et on parle du vivant à des vivants. Et quand on veut parler d'amour et quand on veut parler d'un sujet aussi fort, on a instinctivement envie d'aller le partager et de créer une sorte de communion.
Et là, ça tombe bien. Parce que
vous avez pris un artifice, je t'en prie.
Non, là, ça tombe bien, parce que la parole divine est performative, hein, c'est Fiat Lux, ça apparaît. Et ben, au théâtre, c'est la même chose, tout d'un coup.
Fiat Lux, ce n'est pas une publicité, c'est la lumière fluide.
Oui,
c'est
ça, pardon.
Et d'un seul Fiat Lux.
Et même chose sur une scène de théâtre, c'est la magie du théâtre, justement, c'est de faire exister au moment où on dit la parole est action, la parole est réalité, quoi. C'est ça qui est fou.
Et c'est pour ça que ça a été assez naturel. Et puis après, moi, j'aime bien chercher plein de vecteurs différents pour raconter une histoire.
Alors, les éléments de mise en scène, au-delà du casting, dont on va évidemment parler, le décor est plutôt minimaliste, tout est fait de lumière, de projection.
Alors, donc, pour en venir à la scénographie, on part sur de la terre avec juste une chaise. On aurait pu s'arrêter là. C'est vrai. Dans les premières répétitions, on se disait que ça pouvait marcher comme ça. Les lumières, j'ai Philippe Bartomé, qui est un éclairagiste extraordinaire et qui crée des lumières d'opéra et qui fait des choses formidables, qui m'a fait confiance et je suis tellement heureuse de l'avoir eu. Il y a Marc Lenné à la scénographie. On avait envie de faire quelque chose qui bouge. Moi, j'avais envie de faire un spectacle qui soit un grand mouvement, une grande respiration. J'ai un chorégraphe, Arthur Perrol, qui est venu parce que je voulais que chaque lien de chaque scène soit relayé par des mouvements de danse. Donc, il y avait cette idée de mouvement. Donc, il y a des stores qui descendent, il y a des ampoules qui éclatent,
C'est très Foire de Paris, quoi.
Exactement. C'était ma référence.
Je pense bien. Où tu te
sens? Je suis contente. Mais
esthétiquement, c'est très, très beau. C'est très, très beau.
C'est un vrai Paris, voire, on peut trouver présomptueux de s'attaquer, à une adaptation d'un tel livre et à une création moderne à Chaillot. Enfin, non, vous. Je pense que vous attendiez à ça aussi, non?
Bah oui.
Une pression supplémentaire.
Je suis jamais très à l'aise. Je suis jamais hyper détendue dans ce moment-là.
Qu'est-ce qui vous inquiétait le plus dans cette mise en scène? Je parle de la mise en scène, pas d'adaptation.
La mise en scène, c'était de frôler trop souvent avec la naïveté. C'est-à-dire que moi, j'aime le jeu naturaliste et à la fois très théâtral. Je suis complètement bluffée de voir la troupe polonaise, par exemple, des Berlikovski. C'est-à-dire que quand je vais voir ces spectacles et que je vois des gestes d'un naturel fou et qu'on est au dernier rang de Chaillot et que tout d'un coup on ressent le geste et qu'on le prend dans le ventre, je me dis quel génie d'acteur. Parce qu'ils arrivent à jouer extrêmement naturel et en même temps ils amènent tellement de théâtre qu'on est complètement bouleversé par ça. Donc je voulais absolument avoir des acteurs qui me donnent tout, qui donnent leur trip sur le plateau et qui en même temps jouent comme ça avec un jeu très cinéma parfois et en même temps très théâtre. Donc c'était
alors il y a Stéphane, on va les citer. Il y a Stéphane Facco, on dit Olindo Bolzan,
oui
j'ai bien dit, Gaël Camilindi, Lou Delage que vous retrouvez, oui. qui est une fidèle.
Oui.
Je pense que vous devez avoir son numéro de portable.
C'est le bon nom.
Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkouzi et Morgane Perez. Voilà, ça c'est votre casting.
Oui.
Et le casting, là aussi, se fait en fonction de quoi? Parce que vous n'aviez pas de critères de taille, d'âge, de couleur de peau pour choisir les uns les autres. Donc vous étiez totalement libre de faire le casting que vous souhaitiez.
C'est assez merveilleux parce que j'ai deux acteurs rwandais dans la pièce. Il n'y a aucune raison qu'ils soient rwandais dans la pièce. C'est-à-dire que c'est des coups de foudre de personnages.
Ça répond aux racines, aux origines.
Oui, mais Maria,
l'interprétation du prénom.
Oui, bien sûr, mais enfin, il n'y avait pas une recherche particulière. Et puis ces deux Rwandais en plus qui ont des histoires communes. Enfin, ils se connaissaient pas, ils se sont retrouvés. Enfin, il y a eu des histoires de presque des miracles dès le départ dans ce projet qui était assez fou. La liberté aussi du théâtre, elle permet aussi de prendre un casting de gens qu'on aime. On n'est pas obligé d'aller chercher un casting de gens connus parce qu'on en a besoin.
C'est pas le cas, ça veut dire que c'est le cas au cinéma, il faut...
Au cinéma, c'est compliqué d'arriver avec un casting de gens inconnus et de dire ce sera ça le film et il faudra mettre 3 millions dessus et puis il va falloir me faire confiance.
Il faut venir avec son argent.
Voilà, oui, ouais, si on vient avec son carnet de chèques en général, on a peu
de cinéma, on cherche les bankable, quoi, avant tout. Au théâtre, on peut avoir une histoire à raconter.
Oui.
La direction d'acteur, c'est, ça vous connaît au cinéma, c'est le même travail au théâtre ?
Non, parce qu'on a du temps. Et ils m'ont appris des choses tous les jours. Et ça a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai eu 6 semaines avec eux sur un plateau. Et j'ai eu parfois 5 heures, si je voulais, pour chercher une phrase. La précision d'un mot. Et pas... et que ça ne vienne jamais de moi. C'est-à-dire que je ne sois jamais là pour essayer de leur faire comprendre. Mais qu'on passe par, je sais pas, 5 heures d'exercice. Et qu'on passe par toutes les phases de la Terre pour arriver à une idée. Et que si cette idée ne marche pas, et ben le lendemain, on la change. Et si 3 jours avant la première, on n'est pas content d'une scène, on réinvente tout. Ce sentiment de pouvoir tout réinventer toujours.
C'est terrible aussi.
Avec le temps, c'est extraordinaire.
Mais 5 heures par phrase, vous avez commencé quand même. C'est un boulot de dingue.
Mais il parle
quand
presque
même.
Pas, en fait. L'adaptation, il n'y a plus que 5 phrases, donc ça va.
Elle n'était pas née. Vous aimeriez que le public ressorte de Chaillot ou à Mulhouse ou des scènes en ayant retenu, vous avez dit, un message de tolérance, de valeur, de respect, mais quelque chose de particulier aussi sur leur regard sur la religion. C'est, ce 21e siècle sera religieux ou ne sera pas.
Ouais. Une envie de se regarder, ne serait-ce que de se regarder et de se parler et de se poser des questions. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir la possibilité de faire ce métier pour proposer des sujets qui posent des questions qu'on aime, qu'on déteste, qu'on aime pas.
On l'a bien compris avec Demain, et là avec cette pièce, vous voulez aussi faire passer quelque chose. Vous avez.
Je veux faire passer ce message de l'amour.
Oui, mais chaque fois,
je vais y arriver, tu crois.
Dans les films aussi, soit vous dénoncez, soit vous racontez des histoires suffisamment fortes et pour surligner un problème ou pour rendre les gens conscients de quelque chose.
Je suis obsédée par l'idée de qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Sur cette terre et qu'on passe à côté de beaucoup de choses.
Vivre ensemble, ça peut être un slogan, ça.
Pourquoi vous regardez comme ça?
Pourquoi je vous regarde comme ça?
Oui, hors de question.
Parce que je sens que c'est pas possible. Oui, c'est au théâtre de Chaillot jusqu'au 3 février. C'est Mélanie Laurent qui est notre invitée. On est ravis de la voir. Et là, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Mélanie Laurent.
Absolument, Fiat Lux. Et immédiatement, quand j'ai pensé à vous, Mélanie Laurent, j'ai pensé à un acteur, un monstre du cinéma français qui a joué un rôle capital dans votre vie. J'ai choisi une scène culte pour l'introduire.
Ah bon, carrément.
Pas bien.
Si.
Ouais.
Paisible.
À la fraîche.
À la fraîche.
Glan.
Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Daniel Morin et Albert.
En voiture.
Tranquille.
En vacances.
En
tous les deux.
En vélib. À poil au bord de Marne.
Vous l'avez reconnu, c'est Gérard Depardieu dans Les Valseuses. Gérard Depardieu qui était là au tout début de. Avant même le début de votre carrière, en fait. C'est quand même. Vous n'avez pas un peu la sensation d'être né sous une belle étoile, Mélanie Laurent?
Ouais, c'est mieux que sous Gérard Depardieu.
Je ne me permettrai pas.
C'est mort-né, là.
Pour respirer, c'est plus dur.
On l'a perdu.
Donc Gérard,
sous une belle étoile.
Non, mais surtout que la première fois que j'ai rencontré, il était dans son costume d'Obélix.
Ça aide pas. Si quelqu'un vous plaît comme ça, après, il peut s'habiller comme il veut.
Non, bien sûr, mais de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux et à la fois le plus terrible dans ce métier, c'est qu'il y a un facteur chance qui est. Voilà, il n'y a pas d'école de la chance, malheureusement, mais. C'est la rencontre au bon moment, c'est à 3 heures près, on rate la personne.
Ah, mais la chance est une chose, il faut savoir la saisir
et
surtout et pas l'insulter.
Oui, il faut savoir la voir, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bol, quoi. Faut être là au bon moment et ça, on peut vraiment pas le savoir. Je sais pas si on provoque toujours la chance. Je pense qu'après, une fois qu'on a la chance de pouvoir faire ce métier, il faut pouvoir durer.
Pas la provoquer.
Ouais.
Je parle de se rendre compte que c'est une chance.
Ah, se rendre compte, oui, bien sûr.
Et ne pas l'insulter et après se donner les moyens pour la faire vivre. Et
puis l'optimiser, quoi.
Oui, ouais. Et puis il aurait pu passer à côté de vous sans s'arrêter.
Ah, bah oui.
Il passait pas, il était en costume.
Justement,
j'aimerais
à 10 minutes près, elle était bourrée, vous voyez
justement,
pas.
Justement, j'aimerais connaître ce moment-là, moi. C'est-à-dire que vous le voyez, il est donc en Obélix. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui se passe?
C'est marrant, surtout que je m'en souviens, c'était il y a 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. On est avec une amie sur le tournage d'Astérix Obélix. C'est une scène où ils sont en extérieur avec les Romains. Donc il y a une armée de Romains et puis il y a Astérix et Obélix. Et nous, on se met avec ma copine un peu, on s'éloigne un peu du plateau. Et on fait une sieste dans l'herbe et tout d'un coup,
tranquille, voilà.
Parce que nous on n'avait pas besoin, on n'était pas obligé de travailler nous ce genre-là.
C'est ça.
J'avais 14 ans et j'ai ouvert les yeux et
je retire ce que j'ai dit.
Qu'est-ce que ça dit?
J'ai dit, c'est un peu glauque. Nous dans l'herbe, ça dit très glauque. J'avais 9 ans. Très bien, ok, d'accord. Enlevez-moi cette image tout de suite.
Elle a dit, c'était il y a 20 ans.
Vraiment malade, la
vie. T'es pas attentif. Elle a dit il y a 20 ans.
Et voilà, et tout d'un coup j'ai vu Gérard Depardieu s'avancer. Je ne comprenais pas où est-ce qu'il allait, parce que derrière moi, c'était la forêt. Et voilà, il s'est arrêté devant moi, il m'a dit « Salut toi, est-ce que tu veux faire du cinéma ?»
Et là, on se dit « C'est un plan drague. »
Bah mais non, elle a 14 ans, ça va pas.
Et puis il était en Obélix.
Et alors, j'ai
pas senti que c'était un plan drague, en revanche.
Bah, pas à 14 ans, ça va pas, non.
Mais enfin, quand même.
Non mais arrêtez, mais vous êtes fous.
C'est pas tout ce qui choque personne.
C'est Gérard Depardieu.
Quand t'es habillé en Obélix à 14 ans, t'as pas peur.
Tu vois. Non, et voilà, il m'a demandé si je voulais faire du cinéma et j'ai passé des essais pour un film qu'il a co-réalisé qui s'appelait Un pont entre deux rives avec Auburtin. Et je suis allée aux premiers essais et j'avais tellement le trac que j'ai chopé un fou rire nerveux. J'ai pas réussi à dire un mot du texte. Je suis rentrée chez moi en disant bah voilà, je ferai jamais ce métier, c'est foutu. Puis on m'a redonné une chance. Décidément. Et voilà.
Et là,
il m'a choisi.
Et quand je pense à vous, Mélanie Laurent, je pense aussi à un film qui a beaucoup aidé à prendre conscience. Je voudrais parler du phénomène, non pas demain, parce qu'on vous parle beaucoup de demain, mais de Respire. Respire qui a donné l'occasion de ne plus balayer d'un revers de main toutes ces histoires de harcèlement à l'école. Je crois que ce film-là a été beaucoup vu et que vous avez même animé ensuite ou assisté à des séances avec des collégiens. Qu'est-ce que ça a provoqué, la sortie de ce film ? Au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'il y a eu des choses faites en lien avec l'institution.
Oui, à la fois c'était compliqué parce qu'on parlait de meurtre et ça fumait, ça buvait beaucoup. Donc c'était compliqué de le diffuser et d'avoir l'aide du ministère. Mais je sais qu'il y a beaucoup de profs qui sont allés le voir et que ça a créé un débat, effectivement. Non, c'était assez terrible en fait, parce qu'on a fait des rencontres avec des lycéens et que tout d'un coup on s'est rendu compte que dès que les gens, mais c'est pareil, ça peut avoir un lien avec le Dernier Testament, tout d'un coup quand on dit aux gens est-ce que t'es en souffrance, tout d'un coup ils se lèvent et ils se mettent à pleurer et ils disent oui, j'en ai marre de me faire insulter toute la journée, j'en ai marre d'avoir mal au ventre avant d'aller à l'école. J'en ai marre de me sentir harcelée tous les jours.
Ben, je vis ça tous les jours, moi aussi.
le point commun, il y a déjà un point commun avec Lou Delage, qui était dans ce film, avec Joséphine Japy, qui est dans la pièce. Mais ça veut donc dire que vous voulez toujours faire quelque chose qui fait ensuite parler, réfléchir et qui ne laisse pas indifférent.
Bah oui, parce que j'ai l'impression quand on a la possibilité de la... Oui, enfin, c'est surtout que quand on a la possibilité, qu'on vous donne la possibilité de raconter une histoire... C'est tellement incroyable comme chance dans la vie de pouvoir le faire. En plus, c'est le prolongement de l'enfance. On raconte des histoires quand on est petit.
Oui,
puis
on peut raconter des histoires de sorcières, de policiers. Avec il y a un meurtre, une enquête. Va-t-on le retrouver? Super, on l'a retrouvé. Merci. Non,
mais
c'est
j'aime
fini.
Bien les films qui racontent
et
des
voilà.
choses derrière. C'est sûr.
Et on sort de là. Bon, on a vu un bon film. Il peut être super, un truc de même des super-héros, un film d'action, un film érotique, peu importe, mais qui prête pas à débat.
Mais en même temps, les films de super-héros ou même il y a plein de films de divertissement qui font passer un message aussi. Parfois très naïf, parfois même très manichéen, mais en tout cas qui laisse toujours... En général, les films de super-héros disent quand même qu'on vit mal ensemble.
Qu'il faut être gentil.
Avatar est un des films les plus écolos qui a cartonné dans le monde, qui disait quand même « Arrête de tuer des forêts ».
D'accord, mais le point de départ, je pense, quel est le fond, quel est le sujet, et après... Ouais. D'accord.
Et là, vous l'aviez senti pour Respire, parce qu'autant pour demain, on se doute bien... Je me suis dit, en le disant, il va pas le noter, il va ronfloter à côté,
ça va passer comme ça.
En fin de semaine, elle est au taquet.
Crème.
T'es hyper Fiat Lux.
Et ouais, je suis Fiat Lux à mort.
Là, t'es en double vie.
Vous l'aviez pressenti? Parce qu'autant pour demain ou alors ici pour le Dernier Testament, on sent forcément la portée et l'éventuel débat que ça peut susciter. Est-ce que pour Respire, vous aviez vraiment conscience que ça allait déclencher cette prise de parole dont vous parliez tout à l'heure ?
Non, et surtout j'ai été très étonnée, en général dans la rue c'était des mamans qui m'arrêtaient, plus que des ados, qui me disaient « je suis allée voir votre film sans leur fille, je suis allée voir votre film parce que je sens que ma fille y a un problème à l'école et qu'il y a une de ses copines avec qui ça doit pas être très très clair ». Donc c'était assez troublant parce que c'était l'inquiétude des parents en fait, surtout.
Mélanie Laurent est notre invitée au théâtre de Chaillot. Elle est nationale de Chaillot. Elle met en scène le Dernier Testament, avec notamment Lou Delage, dont on vient de parler à propos de Respire. Voici une bouffée d'air également. Monsieur Guillermo Guiz.
Seigneur Guiz.
Bonjour les amis.
Seigneur.
Ouais. Alors je sais que vous
qui
vous
dit en... ami ici.
Oh,
j'ai entendu ami moi.
Bah, arrête, sois gentil avec lui.
Un peu d'amour, c'est
tout. Mais justement, il est, bon, je... il est bête. Hein.
Arrête là de l'interrompre.
Alors je sais que vous en battez les tissus mous parce que vous n'avez aucun respect pour ce que je suis. À commencer par Leïla qui généralement s'intéresse moins à ce que j'ai sur le cœur qu'à la marque de la mousse de son micro.
Sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je crois que je pourrais mourir en plein milieu d'une chronique et si personne s'en rendait compte, quoi.
C'est
non,
clair.
C'est vrai, il faudrait que j'attende l'émission de Charline et Alex pour qu'on me débarrasse de mon siège et qu'on me renvoie mon corps à son pays.
Monsieur Guiz.
Oui, mais c'est vrai, après on s'étonne que je noie mon chagrin dans les liqueurs de féculents. Et vous allez voir que c'est une bombe de transition, puisque je comptais justement vous parler d'alcool et de l'opération tournée minérale. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça consiste, en Belgique, aux nobles patries, aux mères chéries, à passer tout le mois de février sans consommer d'alcool. Et voilà une très belle initiative que je vais d'ailleurs rejoindre les 29, 30 et 31 du mois en question, en solidarité. Je suis pas encore prêt à arrêter l'alcool, j'ai trop de trucs à oublier. Et puis, j'aime trop faire la fête. Et vous allez me dire, oui, on peut faire la fête sans alcool. C'est vrai, mais alors ça s'appelle une réunion. Et tu t'amuses avec des PowerPoints, des objectifs chiffrés et des gens qui utilisent l'expression en termes de retombées. Donc j'ai pensé à ce que serait ma vie un mois sans alcool. Je préfère encore être assis un mois sur les genoux de Daniel Morin. La joue collée contre les touffes humides de son torse dégueulasse. Oh. À l'écouter chanter des airs traditionnels fascistes, enfin, sans vouloir tout révéler des coulisses de l'émission. Mais ça me foutrait le cafard d'arrêter la picole. Et là, Nagui, en berger du service public, va me sauter à la glotte pour me dire pas d'apologie de l'alcool, malheureux, pas d'apologie. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, non. Et puis, il va me dire, oh, ben, continue, mais dis quand même aux gens que c'est dangereux. Alors évidemment, l'alcool tue en masse. Même juste quand tu meurs à cause de l'alcool, au moins, t'es pas genre déçu. Tu vois, c'est pas comme avec la cigarette, quoi. C'est vrai, tu te dis, bon, bah, je me serais évadé un peu dans cette société terne et anxiogène où on t'offre en destin que la perpétuation de la machine économique. Et là, Nagui va me faire, ah putain, mais en fait, t'as un message sociétal hyper fort à nous faire passer. Waouh, absolument. Un peu d'alcool, un peu de fond. Je suis un peu le Frédéric Becbédé du Lidl. Admettez qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de rêver de par chez nous. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de projets. C'est ce que j'arrête pas de dire à ma meuf, là, quand elle me juge, là, en épongeant le vomi qu'a sur mon gilet. Bah, je lui dis, non, il y a trop de pression. Mais ça la convainc pas. Ça la convainc pas, alors je suis obligé de jouer la carte de la sincérité. Je lui fais, oui, je picole trop. C'est vrai, mais tu préférais quoi? Que je parte faire le djihad en Syrie, c'est ça? Hein? Et que je te vende comme esclave, qu'on te donne une arme de poing et l'équivalent de ton poing en captagon? C'est ça que tu veux? Finir sur un marché bio à Raqqa? Hein? C'est ça que tu veux? Hein? C'est ça? Dis-le! Alors là, évidemment, à court d'arguments, elle me fait oui, mais bon, t'as vu l'argent que ça te coûte? Ok, c'est pas faux, avec les sommes que j'ai dépensées en vodka ces 15 dernières années, j'aurais pu m'acheter, je sais pas, au moins 150 écrans plats. Autant dire pas de regrets! Avec un, j'ai largement assez pour mater les rediffusions des cordiers. Franchement, j'en ai dit. Ah non, c'est l'expression d'un mal-être. Elle me dit, là encore, faux! Archi faux! On se demande vraiment ce que je fous avec quelqu'un qui dit autant de conneries, quoi, vraiment. Juste à mon âge, j'en ai marre d'être collé à mes propres basques en permanence, d'avoir tous les jours le même aspect, les mêmes réactions, les mêmes perspectives. Au moins, quand je suis déchiré, je suis un homme différent. C'est vrai, quand je me réveille, je me dis, tiens, ce que j'ai fait cette nuit,
c'est drôle.
C'est surprenant. Quoi. C'est que de la merde en général, mais c'est surprenant.
Comme Leïla te comprend.
Tellement.
Oui. Ça m'a surpris de moi-même, quoi. Et en plus, ma meuf, elle oublie le déterminisme géographique, c'est-à-dire que d'après l'OCDE, les Belges sont les plus gros buveurs d'Europe, quoi. On est là, putain, quand même. On est là. On est à 12 litres 6 d'alcool par an et par personne. 12 litres 6. Et ouais. Et encore, c'est une moyenne. On est à 16 litres chez les moins de 11 ans, qui ont bien besoin de ça pour décompresser, évidemment, avec tout ce qui leur arrive chez nous. Les pauvres. Et la France, me direz-vous, avec l'ethnocentrisme impatient des peuples qui manquent de confiance en eux. Eh bien, vous êtes à 11 litres et demi, conso de Gérard Depardieu comprise. Donc, on vous gère, quoi. Vraiment, on vous gère. Mais comme d'habitude, vous en avez rien à foutre de ce que je raconte. Donc, voilà, vivement la prochaine réunion que je puisse un peu décompresser tout ça.
Allez, avec modération.
Merci, bienvenue.
La bande originale. Vachement bien. Vachement bien. Pleine forme.
Qui le con.
Ah, je suis merde.
Pleine forme. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas une émission samedi parce que ça en progresse. La bande originale de Mélanie Laurent, qui est notre invitée, qu'écoutait-elle en 2008? The green plastic watering can.
Oui, radio.
les trucs grosses patates, tu vas voir.
Ah, c'est bien. Ah ouais, mais quelle qualité.
Ah, c'est chiant à crever.
L'un des meilleurs groupes au monde, arrête. Radiohead.
Ah, c'est relou.
C'est vrai qu'il n'aime rien. Radiohead, c'est de la merde.
Ah, vous êtes d'accord avec moi?
Vous écoutez Radiohead, ça vous replonge dans quel... C'est le principe de la bande originale, c'est-à-dire cette musique-là...
Ah, c'est
vous,
votre vous musique remet... Je croyais que c'était le titre, moi j'ai pas compris.
Pardon?
C'est vous qui l'avez choisi.
Oui.
Non, on est plus du tout fiat luxe.
Hein, là. Non, non, là ça s'est éteint, là, ça s'est bien éteint comme il faut. Hein. Donc c'est elle qui a choisi Radiohead.
Tu pensais quoi? Je croyais que c'était le disque.
Oui, c'est un disque. Oui.
Non, mais qu'on avait...
Je crois qu'ils sont derrière en train de jouer, non, c'est un disque. C'est un disque.
Mais là, mais là, putain, parce que de la merde sur France Inter. En fait.
C'est douloureux. Hein.
C'est honteux.
Heureusement, il y avait Guillermo parce que ça apportait un peu de
choses. Je prie de bien vouloir m'excuser.
C'est honteux.
Je me tais.
Heureusement que cette émission n'est pas diffusée, parce que sinon, franchement.
Imagine la honte. Imagine la honte.
J'étais pas loin d'être trop bien dans ma carrière et là, tout s'écroule d'un coup.
Cette émission, c'est une pub pour RTL.
Donc, vous écoutiez Radiohead en 2008 lorsque vous réalisiez de moins en moins.
Tu m'étonnes. C'est le
titre.
Ça.
Lorsque vous, c'est le titre. Le titre, c'est de moins en moins.
Alors, ça fait bizarre.
Ouais, ça fait bizarre. Vous réalisez de moins en moins. Bah, sinon,
c'était alors, mon premier film.
C'est ça. Ce que je veux. C'est ça. Non, mais.
Mais Radiohead, je le réécoute. Ça marque plein de périodes de ma vie, en fait.
Oui, mais ça vous replonge à ce moment-là, un tout petit peu, ou pas?
Oui, dans un truc étrange. À la fois, c'est des génies absolus et en même temps, c'est des musiques qui en termes de mélancolie, nous amènent très très loin. Mais ça a suivi un peu plein d'événements dans ma vie et. Et c'est toujours un bonheur de les réécouter. Et puis des fois, on les réécoute pas pendant un an. Et puis c'est une petite Madeleine de Proust dès qu'on le réécoute. Là, c'est là que le fait de la réentendre, ça.
C'est dans les moments justement où quoi, où vous avez un peu le cafard, où
non,
vous êtes seul, où vous cherchez à voir quel sentiment.
Mais moi, j'ai un rapport très particulier avec la mélancolie. Je n'écoute que des musiques tristes, même quand j'ai la grosse patate.
D'accord, bah très bien, ça équilibre, ça équilibre. L'envie de se mettre à la mise en scène ou à la réalisation, à l'époque, ça arrive d'une manière relativement rapide dans votre curriculum vitae, c'est puisque apparemment il faut absolument se mettre des mots latins dans les phrases maintenant.
Je joue pas à ça.
Ah, tu dis fiat luxe, je dis curriculum vitae. Ok, à toi.
Je sais ce que tu veux.
Voilà, un mot latin.
Une extremis.
Ok, etc.
Ok.
Folie du latin.
Une physiotomix.
In fine.
Donc, c'est de là passer à l'acte, à vraiment prendre une caméra et à diriger, c'est d'abord, qu'est-ce qui vous a encouragé à le faire, à le montrer? Parce que vous pourriez aussi vous dire, je fais des petits bouts d'essai pour moi et pas tout de suite le montrer aux autres.
Mais j'ai fait plein de courts-métrages que j'ai même pas osé montrer aux autres.
C'est vrai?
Tellement c'était pas bien. Non, j'ai fait un bac cinéma. Donc déjà, d'ailleurs j'ai mon bac parce que j'avais cette option, sinon je l'aurais pas eu. COEF 8, c'était énorme.
On va pas se planter.
Il fallait écrire un scénario, réaliser un court-métrage, faire des analyses filmiques. Donc j'avais déjà l'envie de ça assez tôt. Et puis, non, c'est toujours cette même obsession de raconter des histoires. Et puis après, j'ai commencé tôt à faire du cinéma en actrice. J'ai eu la chance inouïe de rencontrer des metteurs en scène très inspirants et très inspirés. Et de lire des scénarios, d'avoir envie de raconter des histoires et de rencontrer un jour un producteur.
Alors ça racontait quoi, par exemple, de moins en moins?
Là, une jeune fille en début d'Alzheimer.
Non, c'était cool.
C'est la comédie tout de suite. Hein, c'est...
On en a parlé avec la famille Souchon et à propos du concert qui aura lieu lundi soir à la salle Playel pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, j'en profite
Avant que j'oublie.
Oui. Parce que j'avais parlé du professeur Beaulieu qui faisait des recherches et qui avait trouvé sans doute une molécule que le corps fabrique elle-même. Et c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique ne veut pas financer ce médicament. Et j'ai eu plein de médecins qui ont laissé des messages ici à Inter en disant que il y a le site
Kiss Bank,
c'est ça.
C'est de crowdfunding.
Exactement. Demain. Pour qu'on puisse aider le financement. Ils attendent 30 000 euros.
C'est pas grand-chose. C'est pas,
non, mais 30 000 euros. Je crois que sur tous ces sites de crowdfunding, c'est des sommes beaucoup plus importantes qu'ils attendent. 30 000 euros pour pouvoir continuer la recherche et lutter contre Alzheimer. Voilà.
Sûr,
donc j'avais oublié de le dire, pardon, je le reprécise grâce à vous aujourd'hui. Dans la bande originale de Mélanie Laurent, en 2009, elle écoutait...
c'est encore un disque ou...
C'est Tchaïkovski. Non, c'est Tchaïkovski. Il est là. Wow. Tchaïkovski, en live. Dans la bande originale, un truc de dingue. On exclut.
Ça va pas la journée, ça.
Il y a Capuçon sous la table du bureau, là.
Ah, Renaud.
C'est le violon concerto pour violon en ré majeur, opus 35. La musique classique a toujours été présente dans votre éducation. Ce sont vos parents qui vous ont transmis ce plaisir ou pas du tout?
Non, et en fait, c'est parce que je venais de finir le concert.
Ouais.
J'avais appris le Tchaïkovski pendant 2 mois.
Et
j'ai eu énormément de mal à m'en défaire. Et donc, ça va paraître un peu... En fait, comme j'étais très stressée sur le Tarantino... Parce qu'il y avait beaucoup de pression sur ce film et que j'étais très très... Enfin, j'étais pas à l'aise et je parlais pas anglais. Enfin, c'était très difficile parfois. Je faisais le concerto de Tchaïkovski en air violon. Hein,
oui, c'est ça. Vous
avec la musique. Et en fait, comme ça dure 12 minutes... Et que
pour vous défouler, c'est pour vous aider à vous concentrer. C'est quoi?
Tellement.
C'est la concentration surtout?
C'est la concentration et puis c'est ce geste que j'avais pas envie d'oublier.
Et vous vous soignez un peu? Parce que bizarre quand même.
Avec Tchaïkovski, ça va.
Quand vous êtes dans un rôle, est-ce que vous écoutez la musique qui pourrait aller au rôle, une musique qui vient alimenter le personnage, son caractère, son humeur?
Non, mais quand je réalise, j'aime bien écouter plus ou moins la même chose. Et c'est vrai que souvent c'est du classique. J'écoutais beaucoup Chopin sur mon premier long métrage. Les Nocturnes de Chopin.
Et quand vous réalisez, vous n'écoutez pas ce qui pourrait être la BO du film?
Non. Non, c'est bizarre, mais non. Non, non, j'aime bien écouter, retrouver des musiques presque rassurantes qui m'enveloppent et qui me laissent, je reste concentrée. Mais en général, quand je travaille, j'écoute peu de musique.
Alors, on va retrouver votre joie de vivre en musique, puisqu'en 2010, vous écoutez
Jacques Brel.
Bien sûr, oui. Il y a lesquels.
Mais non, mais si.
Tu l'as dit au hasard.
Oui. Bah oui. De toute façon, il est belge, il n'y a que ça à dire. Hein.
Il connaît Jacques Brel et Marc Dutroux.
On est là.
C'est notre
et Depardieu, il connaît que des Belges.
Oh, c'est un hasard, justement.
Et Jacques Brel. On peut l'écouter quand même.
En plus, voir un ami pleurer, c'est bien.
Ça fait du bien.
Salut.
Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs.
Alors pourquoi Jacques Brel? Pourquoi vous pensez... Pourquoi vous pensez à Jacques Brel quand on vous a dit qu'on voulait savoir quelle musique vous écoutiez la première fois que vous étiez au théâtre dans Promenade de Santé?
Parce que j'ai rencontré Nicolas Bedos dans la première soirée où on s'est rencontrés, on est allé dans un piano bar. Dans un piano bar et on a chanté du Brel toute la nuit.
Vous avez chanté tous les deux du Brel toute la nuit?
Ouais, on est d'accord. Fans de Brel.
Ok, très bien.
Le don de la fête.
Mais on s'est beaucoup marré parce qu'on a beaucoup bu.
C'était pas en février.
Dans la famille, c'est votre papa vous aidait à apprendre des textes, vous avez répété, c'est ça?
Sur le premier, oui, au début, oui. Oui, oui.
Et votre maman, c'était les scènes de danse qu'elle vous conseillait?
Ouais, j'en ai eu peu des scènes de danse, mais par contre, j'en avais eu dans la pièce de Nicolas. Fallait que je monte sur des pointes.
Et on retrouve la danse dans le Dernier Testament aussi.
Ouais.
Et présente et la musique, on n'a pas parlé de la BO. Il y a Cécilia Bartoli aussi.
Ouais. Oh là là. Ça, c'est quand même fou, non?
Ça dépend dans quel état on a envie de se retrouver, surtout.
Moi, je peux écouter ça n'importe quand. Elle me rend.
Dépressive?
Non, elle me rend. En fait, je trouve que c'est...
Mauvaise réponse, cherche encore.
Je trouve que le divin, il est là. Il est dans sa voix, à elle.
Elle n'est pas toujours juste.
Elle sera bientôt...
J'ai vu en concert, elle n'est pas...
Elle sera bientôt Salgavo, je crois. Hein. Bientôt Salgavo en mars.
D'accord, parfait. On le note.
Bah oui, mais moi je l'ai repéré aussi.
En tout cas, Cécilia Bartoli, cette musique est la musique qui... clôt le spectacle, le Dernier Testament qui est jusqu'au 3 février au théâtre de Chaillot. On a demandé à Christine Pedotti, merci Christine.
Merci Christine.
Bonjour.
À bientôt, au revoir. Non, c'est pas ça. Christine, de venir. Christine, vous êtes écrivain et journaliste. Vous êtes directrice.
Ça sent l'emploi fictif.
Directrice déléguée. Ouais, on en parle beaucoup en ce moment. Directrice déléguée de la rédaction de Témoignages chrétiens. Et vous avez créé, suite aux propos sexistes du cardinal archevêque de Paris, André XXIII, le comité de la jupe pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes dans l'église catholique.
Bravo Christine.
On peut déjà vous féliciter oui, pour cette belle action.
Bien joué Christine.
Le Dernier Testament parle du Messie. Ouais. Quelle définition on peut donner au mot Messie, à ce que ça dégage? Comment expliquer un Messie? C'est celui qui porte la bonne parole?
Alors en fait, c'est à l'origine, c'est assez simple, c'est celui qui reçoit l'onction. C'est un roi choisi dans le peuple d'Israël. Ensuite, le mot tombe, si j'ai envie de dire, sur Jésus, dont on dit qu'il est Messie ou Christ, c'est le même mot. Hein.
Christ en grec, c'est lui, en fait, c'est l'onction. Voilà.
Et en fait, en effet, à l'origine, on prend une corne.
Non, en grec, pas, en grec.
À l'origine, hein, les prophètes, le prophète Samuel, il prend une corne remplie d'huile et il la verse sur la tête de celui qui va devenir roi.
Donc en fait, il y a plusieurs messies. Le plus connu, entre guillemets, c'est Jésus.
Tout à fait.
C'est bien ça. Joué, Nagui.
Non, non, mais c'est juste. On essaye de comprendre.
Alors, Jésus, il est vu comme le nouveau roi qui va libérer Israël. Donc,
alors, le messie est là quoi? Pour sauver, on attend quoi de lui?
C'est un sauveur. Alors, à l'époque de Jésus, il y a des Romains qui occupent la Palestine. Donc, on espère que Jésus va être une sorte de Obélix ou Astérix, hein, puisque vous venez d'en parler, qui va libérer. Et puis, évidemment, grosse déception, c'est pas du tout ça qu'il fait.
Oui, ça finit pas toujours bien, en fait, non plus pour les messies. Hein.
Ça finit même assez souvent très mal.
Voilà,
assez mal.
C'est, oui,
c'est, c'est un bon critère pour reconnaître un messie.
Oui, c'est un peu pour devenir culte ou une légende, il faut mourir, c'est
ça. Violente,
c'est comme rocker, quoi.
Tout à fait.
Bah, oui, il y a un côté.
Oui, ouais, sacrificiel.
Il y a un côté, Jésus-Christ est un hippie, ou le messie est un hippie, dans le Dernier Testament.
Je prends une minute pour dire à Mélanie et Laurent, quand même, que j'ai trouvé ce spectacle absolument sublime.
Mais en fait, pas trop non plus.
Ça va
se voir, franchement.
Franchement, je suis sidéré. Parce que c'est le messie. Je veux dire, je crois que c'est incroyablement exact ce qu'elle a fait.
Vous n'avez pas dit la même chose tout à l'heure,
pourtant,
avant que l'émission
commence.
Hein.
Pourtant, j'allais dire, je pensais que vous pourriez être choqué.
Ah non, mais c'est sublime, vraiment. Moi, je suis fascinée par ce que j'ai
vu. Vous avez une épiphanie en le voyant ?
Non, je veux dire, je suis fascinée parce que c'est ça le Messie. Et le premier critère, c'est qu'il ne dit pas qu'il est le Messie. Comme on reconnaît un vrai Messie d'un faux Messie, c'est pas compliqué. Celui qui dit c'est le Messie, dehors.
D'accord.
Faut pas le dire, quoi.
Discrétion.
Je suis très inquiet. Parce que...
Et d'ailleurs, le Ben en question, jamais...
Ben Zion, fils du paradis, parce que Zion, c'est la terre promise aussi, hein, c'est le paradis.
Alors, bon, pour en revenir à Jésus, évidemment, l'affaire se termine très mal. Et l'idée, c'est que le Messie reviendra. Et donc, depuis qu'on pense que le Messie reviendra, on a vu apparaître nombre de faux Messies. Et puis, c'est un thème qui parcourt la littérature, parce que, par exemple, dans Dostoïevski, on a une très belle, dans Les Frères Karamazov, on a ce qui s'appelle La parabole du grand inquisiteur. Le spectacle que j'ai vu m'a fait penser à ça. C'est le même thème, c'est le Messie revient, et il n'est pas reconnu. Et il est persécuté, le Ben Zion, il est sérieusement persécuté, ouais, lui aussi.
Alors, c'est un thème qui revient dans la littérature, effectivement, mais aussi dans la politique, parce que dans les courants libertaires avant la guerre de 14, le thème du Christ libertaire anarchiste qui revient, là j'ai un petit bouquin de Jean Rictus, qui était un poète de l'époque, et un poème qui s'appelle Le Revenant, qui a des similitudes assez troublantes, je vous le passerai d'ailleurs. Il y a un petit marque-page, c'est un tourteau.
Mais tu l'as enlevé le marque-page.
Et c'est un thème qui revient. Et
ce qu'il faut savoir,
dans l'Allemagne de Weimar, par exemple, avant le nazisme, il y a une quantité incroyable, on ne sait pas, en Europe même, de mecs qui se présentent comme étant le Messie. Donc dans les périodes de crise où les gens sont angoissés, ont des incertitudes sur le présent et sur le futur immédiat,
c'est là
que les Messies champignonnent, si j'ose dire. Alors vrai Messie ou faux Messie.
Et puis il y a des sectes qui débarquent aussi. Alors,
évidemment, ça permet de faire proliférer. Si vous voulez créer une religion, le bon plan, c'est d'avoir un Messie. Hein, ça, c'est idéal.
Oui, mais
il faut commencer par un Messie.
Vous dites que c'est le vrai Messie dans le Nouveau Testament. Or, lui est contre en fait les religions. Lui.
Bah oui, bah comme le vrai, comme Jésus.
Jésus,
il était contre la religion. S'il y a un cri.
Mais moi, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'il est écrit par un auteur athée, et que j'ai un de mes acteurs qui joue dans la pièce, qui est croyant. Ça parle d'amour, et après, on y voit un peu ce qu'on veut. Moi, je vois pas tout ça. Je vois un message d'amour et d'humanisme et une envie d'y arriver, à être ensemble, et de symboliquement, pourquoi on va essayer de le rendre martyr, c'est parce que tout d'un coup il devient dangereux, parce que tout d'un coup le message d'amour, on n'a pas intérêt à le faire passer aujourd'hui, donc il va falloir éliminer cet homme-là. Moi, ça me touche, ça me bouleverse, et puis je trouve qu'il y a un rapport avec la nature aussi qui est très beau. Un peu comme ce que voulait faire comprendre Spinoza, il disait que le Dieu c'était la nature. Il n'y avait pas de Dieu comme quelque chose de religieux ou de messianique. Il y avait quelque chose de le divin. Il est autour de nous. Il fait partie de ces deux. Et c'est ce qu'on a rajouté dans la pièce.
On a chacun en nous un petit bout de Dieu, et c'est tous ensemble, bah, justement, ensemble, que voilà, qui fait la puissance.
Oui, on dit que dans la pièce, on dit que Dieu c'est le rire d'un enfant, et que c'est un air d'opéra. C'est pour ça que la pièce finit sur un air d'opéra. C'est-à-dire que peut-être que le divin il est partout, mais voilà. Donc, mais en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que quand je suis sortie de la pièce et que je l'ai suivie en tournée, j'ai eu des témoignages tellement différents de plein de gens qui religieux ou non.
Il y a eu des agressions entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont dit c'est une honte de que le Messie soit bisexuel, c'est une honte.
Aucune. J'ai eu des réactions.
Une Marie-Madeleine, parce qu'elle est entre guillemets, la prostitution est présente aussi, la nudité est présente, ça choque toujours.
Et puis il y a une réplique dans la pièce où je pensais que ça ne passerait jamais. Et elle est passée. Non, elle est passée. Il y a plein de gens qui...
Lesquels en particulier, parce qu'il y en a pas mal quand même de répliques.
Mais il y a un SDF qui dit quand même qu'on ne vienne pas me parler de cet enculé que les gens appellent Dieu.
Il le dit comme ça?
Comme ça, un peu comme ça, je m'en l'assume.
Il est plus fluide, lui, dans le...
Et en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression que la pièce, elle est prise comme des gens désespérés, des âmes esselées qui ont besoin juste qu'on les regarde et qu'on les écoute. Et j'étais très, très étonnée de ça. Je pensais qu'il y aurait presque une censure. Et en fait, non, effectivement, pas du tout. Elle est vécue comme Louis, comme voilà, un personnage qui est là pour parler que d'amour.
Alors, vous ne vous attendez pas à ce que Christine, venant de témoignages chrétiens, vous dise tout le bien de la pièce? Vous avez l'air surprise quand vous avez entendu ces compliments.
Mais je suis toujours surprise qu'on aime, de toute façon.
Elle n'est pas dans le jugement, elle aime son prochain.
Christine est amour.
Et Christine est amour, exactement. Et elle nous raconte la Bible comme un roman. Ça, c'est ce que vous publiez chez XO Éditions. Il y a deux tomes, la Bible racontée comme un roman, la grande histoire des passions humaines d'abord, et le tome 2 qui arrive en ce moment. Parce que c'est extrêmement moderne, justement, la Bible.
Ah, mais c'est des scénarios fascinants. C'est une mine de scénarios. Les auteurs bibliques, ils ont raconté des histoires avec un talent phénoménal, qu'on a du mal à lire aujourd'hui parce que le texte de la Bible, même s'il est traduit en français, il est très difficile à lire parce qu'il ne va pas du tout dans nos rythmes de lecture. Donc on a beaucoup de mal à comprendre les histoires. Donc moi, ce que j'essaie, c'est de redonner le sens du scénario. Et c'est d'une modernité absolument fascinante. C'est juste incroyable. Il y a de quoi faire 12 films.
Comment vous expliquez la force, la montée des religions, quelles que soient les religions, et puis surtout que les religions existent et qu'elles soient plurielles, c'est parfait. Mais ce sont ce qu'on leur fait dire, les extrêmes qui évidemment détruisent, tuent, encore une fois, quelles que soient les religions. Parce que s'abriter derrière une religion pour faire des horreurs...
Oui, c'est assez compliqué parce que quand on dit qu'on fait les choses au nom de Dieu, c'est la porte ouverte à toutes les folies. Quand en fait on dit qu'on a raison au nom de Dieu...
Que ce soit faire un attentat ou construire un mur entre deux pays.
Voilà, je veux dire, avoir raison au nom de Dieu, c'est la chose qui est condamnée par au moins le judaïsme et le christianisme de façon très claire, parce que c'est l'idolâtrie. Dieu, on ne le saisit pas et on n'en saisit pas la parole. Il est insaisissable. C'est au fond ce qu'il y a à l'intérieur de ces textes
puis on lui fait
qui
dire,
moi me passionne.
On lui fait dire un peu ce qu'on
et
veut.
On lui fait dire ce qu'on veut, absolument. Donc, dans le retour du fait religieux, qui est très singulier, vous avez cité cette phrase que sans doute Malraux n'a pas dite sur le 21e siècle,
qui sera religieux. Ou ne sera pas.
Et en fait, on voit deux choses. On voit la religion apparaître comme donnant raison à un certain nombre de gens. Et puis on voit autre chose, qui est l'aspiration des hommes et des femmes à quelque chose de spirituel, à quelque chose de l'ordre de l'ouverture du cœur. Donc c'est aussi ce qu'on voit.
Mais on se tourne vers le spirituel quand on n'a plus de réponse dans le réel?
Non, on se tourne vers le spirituel parce que je pense que c'est une dimension de l'être humain et qu'on n'est pas seulement des grands estomacs.
Le spirituel n'est pas uniquement religieux.
En fait, moi, je connais des gens qui sont très religieux et pas du tout spirituels,
et
des gens qui sont sans foi à ma connaissance et qui sont, enfin, sans foi religieuse et qui sont extrêmement spirituels.
Mais chaque fois qu'il y a une grande ou une grave crise économique mondiale, oui, il y a les montées des extrêmes, des fascismes et des tendances à rejeter l'étranger. Mmh. Est-ce qu'on se rend compte en termes de religion qu'il se passe aussi des mouvements, des adhésions, des communions particulières?
Alors, en fait,
on parle de la crise de 29, puis oui, de la montée du fascisme. Il s'est passé quoi en termes de religion dans ces années 30?
À ce moment-là, rien de particulier. Mais on voit bien, par exemple, aujourd'hui, que sur la question de l'accueil de l'étranger, des réfugiés, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent qu'ils sont catholiques, donc chrétiens, et qui sont convaincus que le pape François est en train de détruire la civilisation parce qu'il nous dit qu'il faut accueillir l'étranger. Or, en fait, je suis désolée,
qui est vraiment un message.
Si on lit l'Évangile, au centre, il y a l'accueil de l'étranger. Si on lit la Bible, le judaïsme est aussi porteur de l'accueil de l'étranger.
Et l'amour, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, j'imagine.
Tout à fait.
Mmh. Oui. La Bible racontée comme un roman, en tout cas, tout ce que vous dites, ça donne envie de vous lire. La Bible racontée comme un roman, signée Christine Pedotti. Et je rappelle, donc, témoignage chrétien, il y a un dossier sur la laïcité et les religions. J'aime beaucoup cette une avec tous les logos de toutes les religions possibles et imaginables et le bonnet phrygien au milieu pour symboliser la laïcité.
Merci.
Bravo, Christine. Mélanie. Merci. Daniel Morin, on voit bien que la figure du Messie est complexe et multiple. Elle fascine. Mais ça peut aussi faire peur de voir.
Oh,
que
la vache!
Qu'est-ce que j'ai dit?
Alléluia! Oh, nom de Dieu, c'est beau. C'est beau. C'est plus que beau ce que vous dites, monsieur Guy. C'est magnifique. On dirait Benoît XVI qui chante du Village People dans N'oubliez pas les paroles, accompagné par un animateur en string fuchsia. Ce qui a bien à y réfléchir est aussi à l'image de vos propos. Navrant. La figure du Messie n'est pas complexe, elle ne fait pas peur. Le Messie, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle, celui qui redonne foi et espérance. Pour résumer, c'est un peu moi quand je suis en train de parler aux auditeurs. Suis-je complexe? Pas le moins du monde. Fais-je peur?
Oui. Tu fous les chocottes, Daniel.
Comment ça, je fous les chocottes, François?
Tu ne t'en rends pas compte, mais souvent, quand tu nous regardes, on se sent intimidé, on se sent déshabillé, on se sent palpé, on se sent tripoté dans son intimité. Tu as le regard du pervers, ça m'émoustille.
À part moi, qui fait peur? Vous en avez connu, des messies?
Des messies, j'en ai connu qu'un. Un être supérieur, un homme qui donnait du bonheur dès qu'il apparaissait.
Mais qui ça?
Kiss me. Ah,
C'est Jérôme, le plus grand chanteur du monde. Quand il ouvrait la bouche, les paralysés se mettaient à cavaler. Les enfants se couvraient de poils. Les chiens miaulaient. À côté, Jésus, c'est une toute petite bite.
Non. Et est-ce qu'il faisait peur, c'est Jérôme?
Pas le moins du monde. C'est Jérôme n'était pas inquiétant. Il était excitant.
Merci, François. Vous voyez, monsieur Guy, votre raisonnement, comme bien souvent, ne tient pas debout. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci,
Daniel. Voici Madonna avec Hang Up, notre invité. Ah oui, c'est vrai qu'elle commence par ses voix.
C'est un disque?
Non, elle est là.
Avec Bartoli.
I'm
Madonna avec Hang Up. Mélanie Laurent est notre invitée. Bon, elle sera là. Tu peux enlever ta guépière. Elle sera là jusqu'à midi et demi. Mélanie Laurent pour parler du dernier testament qui se joue à Chaillot jusqu'au 3 février. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec les Magas Abu Dhabi. Guillaume Mogulis. Daniel Morand.
Bravo,
Albert Angou.
Bonjour.
Michel Landa qui est au clavier. Et notre invité, Mélanie Laurent. Oh,
elle est restée. Quelle audace.
Quel culot. Oui. Mélanie Laurent. Quel culot de faire le dernier testament. Je suis sûr, et vous avez dû rencontrer des personnes qui ont cherché à vous convaincre en disant « Mais non, tu es folle. » D'abord, ce roman de 600 pages est extrêmement dur à écrire en pièce de théâtre. Peut-être l'idée d'en faire un film avant d'en faire une pièce.
Oui, mais alors pareil, si on faisait un film, on gardait un peu de réalisme. Et là, on était sur une super production énorme. D'ailleurs, quand j'ai rencontré James Frey, que je lui ai dit j'aimerais bien les droits du dernier testament, il m'a dit oui, bah Nolan aussi veut les droits. J'ai mais moi, j'étais pour le théâtre. Ah, le théâtre, ça, j'avoue que c'est assez original. Personne me l'a demandé.
Mais il y croyait pas, lui.
Ben non, mais c'est-à-dire que James Frey, quand il sort un livre, on achète ses droits pour 15-20 ans. Son premier livre, Brad Pitt, a les droits depuis, je sais pas, doit faire 15 ans, qu'il paye tous les 5 ans les droits de son premier roman. C'est un des
comme
auteurs...
Comme il n'a pas fini de lire, il continue.
Non, mais je ne sais pas pourquoi on ne les tourne pas, mais en tout cas, tout le monde se jette sur les droits. Donc,
et donc là, le dernier testament, c'est Xavier Nolan qui a pris les droits.
Non, Christopher Nolan voulait les droits. Mais je pense qu'il aurait eu un budget énorme, parce qu'on aurait essayé de jouer les vrais miracles, on aurait essayé de jouer d'un vrai premier degré par rapport au roman. Donc là, la pièce de théâtre, ça allait, il n'avait pas eu de proposition comme ça, et donc je m'en suis sortie comme ça.
Et autour de vous, quelqu'un vous a dit...
On m'a dit souvent, jusqu'à la fin, on m'a dit c'est inadaptable, comme ça. Inadaptable, vraiment genre...
En huit mots, très bien, n'y va pas.
Mais en fait, moi j'ai rencontré assez tôt dans l'écriture et dans le travail Charlotte Farcey, qui a profondément changé ma vie, c'est un peu mon messie à moi. Il y a un avant et après cette femme avec qui j'écris maintenant. Et ça s'est plutôt passé dans la... Enfin, c'était assez facile et excitant, c'est-à-dire qu'on se retrouvait plusieurs fois dans l'année, on écrivait ensemble, on coupait, on réécrivait, on se laissait du temps pour essayer de voir comment la pièce évoluait dans nos têtes.
Et alors, de porter l'histoire de ce messie qui arriverait au XXIe siècle à New York, qui serait porteur de valeurs, d'écologie qui vous sont chères, mais pas uniquement, de tolérance, de respect, d'amour, d'écoute, de vivre ensemble, comme vous le disiez. Pourquoi aller jusqu'à faire soi-même la mise en scène et pas uniquement faire l'adaptation, le produire peut-être et dire à quelqu'un « vas-y ».
Mais parce que j'ai un grand désir de mise en scène. En fait, si je me disais ça, ce serait pour m'excuser ou pour dire « non, mais je vais pas faire la mise en scène ». Quand j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de la raconter. Pas toujours de l'écrire, en revanche, parce que c'est pas ce que je préfère dans le travail.
Mais et pas de le jouer non plus.
Non, et puis pas sur une première mise en scène. C'était déjà tellement flippant que non, j'aurais pas pris le risque d'être sur scène. Et puis j'avais envie d'être face à mes acteurs et de les diriger et prendre le temps pour eux. La double casquette, elle est intéressante parfois parce qu'elle nous permet d'être en même temps avec les gens et de pouvoir jouer avec eux. Mais là, j'avais besoin d'avoir du recul. Et puis il y avait cette idée de la scénographie que je voulais voir de loin et j'avais besoin de ces images.
Et pas écrire, pas jouer, vous seriez pas un peu feignasse? C'est vrai, quoi.
Au casting, Olindo Bilzan, Stéphane Facco, Gaëlle Camille-Lindy, Lou Delage, Jocelyn Lagarrigue, Nancy Nkouzi et Morgane Perez. Tout ça, c'est une création qui a été faite au Théâtre du Gymnase, c'est ça, l'année dernière. Puis il y a eu une tournée, et là, ça revient à Chaillot, et ce, jusqu'au 3 février, mise en scène
et
par
Mélanie. Et la filature Mélanie. Aussi de Mulhouse.
Exactement, exactement. Très belle salle. Et on vous encourage, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Christine Pedotti l'a dit, on reste pas indifférent. Je pense que dès qu'on sort du théâtre, on va prendre un verre pour en parler.
Non, mais pas en février, donc du coup, faut y aller avant.
Pas en février, ça c'est rare. Faut répondre à Lava tout à l'heure du mois sans alcool. J'ai dit on va aller boire un verre et pas d'alcool. Le dernier testament, Mélanie Laurent, voici le dernier de la semaine, des Daniel Morin.
Oui, 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 oui.
Le dernier des Morins.
Oh, demain est un grand jour de fête, les amis. Demain, c'est le nouvel an chinois et vietnamien. Wouhouhou. En plus, j'ai la bonne musique qui va avec. Bonne année, les Chinois. Vous pensez quoi du nouvel an chinois et vietnamien, Maréchal Ganache?
Ah, je trouve ça formidable. Pendant cette période, il règne un esprit de fête, une joie contagieuse. J'adore ce moment.
Non, sérieusement.
Je déteste ces gens.
Ah, enfin, je m'en retrouve.
Mais enfin, comment voulez-vous que je me réjouisse après tout ce que ces salopards m'ont fait subir?
Oh, quelle râleur vous faites aujourd'hui. C'est la fête, réjouissons-nous. Vos mésaventures, c'est du passé.
Passé ou pas, je vous rappelle que ces sauvages m'ont mutilé dans ma chair la plus tendre. J'ai été amputé de 2 tranches de cul.
Oui, oui, je sais, c'est pendant la guerre. Oui, c'était horrible. Mais bon, là, oh merde à la fin. Nouvel an, ça se fête. Allez, festoyons avec nos amis chinois et vietnamiens.
Les Chinois et les Vietnamiens, tu parles d'une bande de prétentieux.
Comment ça?
Ils pourraient pas faire comme tout le monde, fêter le nouvel an le 1er janvier, hein? Non, le nouvel an, c'est le 28 janvier, nanana. Et puis c'est pas tout. On n'est pas en 2017 pour les Chinois. On est en 4715, ouais. C'est comme ça chez les Chinois, les Noirs. On se croit toujours supérieurs.
Bon, on va parler d'autre chose. Vous avez regardé le débat Manuel Valls-Benoît Hamon avant-hier?
Affirmatif.
Et alors?
C'était de la merde. Oh.
Vous pouvez argumenter?
Affirmatif.
C'est quand vous voulez. Hein.
Eh bien, c'était un débat de lopette. Pas une insulte, pas une gifle, pas même un petit coup de pied dans les testicules. Ah, rien, pas de zombie. Du coup, maintenant, je suis pour Macron.
Ah, je voyais plus du côté François Fillon.
Oh, parlez pas de lui. Depuis que je sais qu'il a fait gagner 500 000 à sa bourgeoise sans qu'elle foute rien, je suis révolté. Je te le passerai à la jeugène. Moi, il ferait moins son malin, Mister Sourcil.
Donc vous soutenez Macron?
Oui, Macron.
Pourquoi?
Je le sens bien, ce petit gars. Il sourit tout le temps, il a une jolie femme, il n'a pas de programme. Tout le pays l'adore. Il est bien parti pour baiser tout le monde.
Ah, et ça vous plaît comme programme?
Ah, bah, quitte à se faire baiser, autant que ça soit par quelqu'un de souriant.
C'est pas faux. Et Marine Le Pen?
J'en veux plus.
Bah, pourquoi?
Elle a perdu 12 kilos.
Et alors?
J'aime pas les maigres, j'ai pas confiance.
C'est quoi pour vous le profil du candidat idéal?
Donald Trump.
Et pourquoi?
Parce qu'il en a dans le froc.
Oui, mais encore?
Parce qu'il a un programme séduisant.
Comme quoi?
Le retour de la torture.
Dites donc, Maréchal.
Oui.
Vous seriez pas une pointure en analyse politique,
vous? Un peu, c'est vrai. C'est sûrement pourquoi j'ai signé un CDI avec France Inter, un CDI signé dans le bureau de la présidence en personne, en présence du grand patron, je bafouille, oui, mon dentier se décroche une fois de plus, du grand patron Mathieu Gallette.
Ah, Mathieu Gallette.
On me bichonne pour que je puisse apporter ma science et mon expertise sur cette antenne de gauchos incultes et analphabètes, à commencer par cette équipe de la bande originale composée d'Ignacio, dont certains ont même l'audace d'avoir des origines douteuses, voire orientales.
Je ne me sens pas visé.
Et pourtant, vous devriez, monsieur Morin. Vous êtes un idiot.
Oh, vous êtes d'une humeur de chien aujourd'hui.
Pas du tout, j'ai la pêche. J'ai pris un sniff de poppers avant l'émission et je suis au taquet, comme on dit chez les bisexuels.
Et vous faites quoi ce week-end?
Oh, J'en sais rien. Je vais peut-être aller pique-niquer au cimetière.
Oh non, mauvaise idée. Allez plutôt participer à Samedi qui sauve.
C'est quoi?
C'est des démonstrations pour apprendre les gestes qui sauvent, justement, les premiers secours.
Oui. Belle connerie, ça.
Comment ça?
Bah, faut apprendre aux gens les gestes qui tuent. L'étranglement, le saignement, l'égorgement, la castration, la mort, quoi.
Mais pourquoi?
Parce qu'on est trop nombreux sur cette planète. Si on tombe sur un blessé, faut l'achever, pas le sauver.
Ok, Maréchal. Bon, bah, bon week-end quand même.
Je vous emmerde.
Super.
Avec Nagui.
Ah, je l'ai pas vu venir celui-là.
Il est de très bonne humeur.
Laissez-moi.
Merci Albert, merci Daniel. Pour Mélanie Laurent, nous parlons bien sûr du Dernier Testament. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité pour vous dans cette année 2017. Commençons par les derniers Parisiens. Vous serez à l'affiche de ce premier long métrage de Amé et Ekwe, un groupe de rap, notamment de la Rumeur. Que faites-vous dans ce film? Que jouez-vous? Qui jouez-vous?
Je joue une...
Dans un bistrot?
Je joue dans un bistrot. Non, en fait, dans le film, il y a un personnage qui sort de prison et donc je suis
la
spif qui Preda Kateb qui sort de prison et donc je m'occupe de lui pour essayer de voir que sa réinsertion se passe le mieux possible.
Il revient dans son quartier à Pigalle, c'est ça, au milieu de ses potes.
Bah, bistrot de son frère.
Voilà.
Et on recevra Reda Kateb dans la bande originale pour parler du film.
Parfait.
On va se gêner.
Personne n'a jamais filmé ce quartier comme ça. Le film est incroyable.
D'autres projets à venir ? Vous êtes en tournage, en préparation. Mon garçon, vous l'avez tourné ou pas ?
On l'a tourné, oui.
D'accord. Avec Guillaume Canet.
De Christian Carillon.
De Christian Carillon. Et là, vous y faites quoi ? Ou qui ?
Je fais l'ex-femme de Guillaume Canet. Le film va être assez fou, ne serait-ce que par son concept. Oh, concept. On a tourné en 5 jours, le long métrage.
Ah ouais, d'accord, ok.
Et Guillaume Canet ne connaissait pas le scénario. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Il arrivait et tout était mis en scène autour de lui. Nous, on a fait toutes les répétitions. Et lui, il est rentré dans un tournage en découvrant chaque scène, ce qui était assez fou. Et pour nous, parce que...
Surprise, en fait.
Oui, beaucoup. Ça n'a jamais été aussi angoissé de ma vie.
En tout cas, vous le vendez bien. Hein. Super.
Non, mais si, c'était... Bah, pour un thriller, franchement, que l'acteur principal ne sache pas ce qu'il va vivre, c'est pas mal.
Ouais. Non, mais j'ai hâte de voir ça. C'est un sublime concept, en tout cas. Ouais. C'est un vrai concept. Rock'n'Roll est le prochain film de Guillaume Canet. On le recevra le 8, ici, dans cette émission. Et je sais plus s'il vient seul ou avec Marion.
Il vient tout seul.
Il vient tout seul.
Ouais. Elle veut plus venir.
Marion vient sans Guillaume, Guillaume vient sans Marion.
Ouais. Ouais. Est-ce que ça veut dire que leur couple bat de l'aile?
Non, ça veut dire que ça fait deux fois plus de possibilités de les recevoir. Ça qui est bien. Plongée, l'adaptation du roman de Christophe Onodibio qui est paru en 2013. Il y a 4 ans, c'est ça, 2013. Vous avez signé le scénario cette fois-ci. De Plongée.
Oui.
Oui. Non, mais
il y a pas de piège.
Par rapport. Oui, par rapport à mon garçon. Dans tout ce que je raconte. Oui. Et là, ça se passera quand, comment?
Normalement, on sort en septembre avec Gilles Lelouch et Maria Valverde.
D'accord. Très bien. Voici le brouillon de culture pour Mélanie Laurent par Leïla Kaddour Boudjeli.
Mélanie Laurent, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous en anglais.
I am not a believer in climate change. Now it's gotten global warming and climate change, and now they call it actually extreme weather. That's the new one, because weather seems to be a little more extreme. It's weather.
Voilà, du Donald Trump, magnifique. Traduction, je ne crois pas au changement climatique. On appelle ça le réchauffement climatique. Le changement climatique, maintenant, ça s'appelle une météo extrême. C'est juste la météo. Voilà, à peine investi la semaine dernière, le nouveau président américain a supprimé...
Ça fait toujours mal de le dire. Hein.
Oui, on n'arrive pas.
Ouais, c'est ça.
Arrêtez, respectez-le.
A supprimé, en fait, du site de la Maison Blanche, les pages consacrées au climat. C'était une façon de dire bonjour, welcome, voilà, j'arrive. Je me demandais ce qu'en pensait la réalisatrice de demain. J'ai pas beaucoup de doutes sur ce que vous allez me dire, mais...
Mais alors pourquoi tu poses la question?
Parce que je me dis que c'est pas inintéressant de voir aussi qu'il a nommé à l'environnement un climato-sceptique, et qu'on... Voilà, il continue d'aller dans ce sens-là.
Et qu'on risque de faire un bond en arrière.
Oh, ouais. Plus que ça même. Non, je suis un peu atterrée, je suis pas sûre de pouvoir parler de Trump et de ce qu'il fait avec le... L'écologie s'en fond en larmes, en fait. Non, je suis très inquiète, très atterrée, et j'espère que, voilà, on fera pas les mêmes conneries, nous, en France, et qu'on n'essaiera pas d'élire quelques extrêmes, et que, voilà, que ça nous serve de leçon. J'espère que ça va nous servir de leçon un tout petit peu.
Et est-ce que vous avez la sensation que la cause de la planète est au centre des débats, ou est-ce qu'on en entend suffisamment parler dans ces campagnes-là, des primaires, que ce soit de la droite à la gauche? Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu un vrai thème de campagne?
Pas encore assez, parce que moi j'aimerais que ce soit au centre de leur campagne. Pas encore assez. Après, oui, il y a des efforts. Après, enfin, moi, je suis pas. Je demande à un politique de respecter son programme. Ouais. En général, quand on lit certains programmes, ils sont toujours plutôt excitants. Mais en fait, voilà, il faut pouvoir appliquer les choses. Il faut être radical, en fait, surtout. Ouais. Malheureusement, parce que c'est déjà trop tard. Donc, les solutions, il faut qu'elles soient appliquées tout de suite. Je sais pas qui, dans leur mandat si court, hein, peut se permettre de repartir et de réinventer les choses, alors qu'en fait, on a besoin que de ça, de réinventer le monde.
Ah bon, on a mis pas mal dans son programme. Oui. Est-ce que vous avez été justement approché avec l'année présidentielle qui est la nôtre pour amener votre concours à un candidat, puisque demain a été un film retentissant vu par beaucoup beaucoup de personnes et que vous avez cette carte-là, Mélanie Laurent?
Oui, mais non. Enfin, j'irai avec personne parce que je veux rester très libre.
J'ai pas dit que
non, mais je veux dire, je soutiendrai aucun politique parce que.
Mais on vous a approché ?
Non, là non, on m'avait approché il y a quelques années, mais ouais. Là non. Tant mieux.
On poursuit avec un autre son.
C'est un système qui est très rapide et qui permet à n'importe quel type de projet de venir se confronter au public. Et au public, et ce qui est quand même vital, nous en tant qu'individus, de reprendre le pouvoir sur notre argent enfin et de décider ce qu'on veut en faire et de l'investir dans l'économie réelle plutôt que de le laisser dormir dans les banques.
C'est Vincent Ricordo, un des fondateurs de la plateforme de financement participatif KissKissBankBank, dont nous parlions tout à l'heure avec Nagui pour Alzheimer et la levée de fonds pour
le professeur Beaulieu.
Le professeur Beaulieu, c'est via cette plateforme que vous avez financé demain. Est-ce que c'est devenu pour vous, je ne sais pas si, comment vous avez financé votre mise en scène là au théâtre, est-ce que c'est devenu pour vous une façon de développer
de produire
oui vos activités sans pour autant passer par la validation de telle ou telle instance ou gros producteur et de par conséquent vous limiter dans vos libertés.
J'ai pas osé refaire KissKissBankBank pour la pièce,
ouais.
Parce que c'est un financement qui est un mélange de théâtres nationaux et de mécènes. En revanche, il y a eu Dior, Tory Burch et Gary Lafayette qui ont été mes mécènes de la pièce de théâtre. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de mécènes. Et que c'est très très compliqué de faire exister un théâtre.
Les théâtres dans lesquels vous avez joué, à commencer par le théâtre Gymnase Bernardine à Marseille ou Chaillot, sont les coproducteurs.
Ils sont tous coproducteurs, oui.
Et c'est pas si fréquent que ça que de grandes marques telles que vous venez de citer soient mécènes pour du théâtre.
Mais j'aime bien faire ces ponts-là en fait. Ouais. Et non, ce qui est intéressant dans la culture française aujourd'hui, c'est de savoir qu'on a besoin de mécènes si on veut raconter quelque chose. Ça c'est une vraie question. Après, KissKissBankBank, c'est une plateforme extraordinaire. Mais j'ai tellement l'impression qu'il s'est passé un miracle avec demain que j'ai l'impression que j'oserais jamais.
Vous avez demandé combien au départ pour demain?
On a demandé 200 000 euros. Ce qui est énorme, ce qui était déjà complètement...
Et vous avez eu plus du double, non?
On a eu les 200 000 en deux jours.
Ouais, c'est ça.
Au lieu de 60 jours, on a fini à 430 000 euros. C'est-à-dire que c'était complètement fou. Donc, je sais pas, moi, il y a quelque chose comme ça de une fois et puis...
De pas y retourner?
Bah, pas pour l'instant, j'oserais jamais, parce que c'est tellement miraculeux ce qui s'est passé, c'était tellement incroyable.
Et alors, pardon, dans ce système-là, ils sont coproducteurs, ceux qui participent au financement sont coproducteurs du film.
Donc, en fait,
ils ont eu un retour, ils ont eu un retour sur investissement, comment ça se passe?
En fait, c'est des échanges. Donc, en fait, ce qui nous a énormément touché avec KissKissBankBank et demain, c'est qu'en fait, les échanges qui ont été le plus demandés, c'était de planter un arbre. C'est-à-dire que les gens, ils donnaient de l'argent. Et leur contrepartie, c'est de planter un arbre. Mmh. Et on s'est dit, parce qu'on avait fait une association avec la marque Veja pour fabriquer une chaussure complètement écolo demain. Et on pensait que ce serait la basket à ce prix-là qui partirait en premier. En fait, non, c'était replanter un arbre. Donc c'était déjà, voilà, les échanges sont faits en fonction des projets qui sont proposés.
Et est-ce que vous participez justement en tant que donatrice, on va dire, sur ces plateformes KissKissBankBank? Est-ce qu'il y a des projets là dont vous pourriez nous parler? Vous avez vu d'individus
sur
que vous
soutenez? Sur KissKissBankBank, il y a tellement de choses.
Et en plus,
on a toujours envie de... Enfin, il y a quelque chose de... En plus, c'est assez merveilleux parce que pour très peu d'argent, on a l'impression de participer à quelque chose d'assez fort. Et il y a des projets absolument extraordinaires. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de... C'est des individus qui proposent leurs projets, qui ont fait cet effort d'essayer de le présenter le mieux possible, qui essaient de vous faire rêver avec un contenu, et on participe de manière tellement simple à ça que c'est quand même assez facile et réjouissant en fait de pouvoir le faire.
Je finis avec un cadeau pour vous, Mélanie Laurent. C'est une bande dessinée de Aude Picot aux éditions d'Argo. Ça s'appelle Idéal Standard, pour vous faire le pitch, comme dit notre cher maréchal, le pchit. C'est l'histoire de Claire qui cherche l'amour, qui enchaîne les rendez-vous. On peut imaginer ça sur des plateformes de réseaux sociaux. C'est des rencarts plus ou moins foireux. Et un jour, elle tombe sur un garçon qui a l'air merveilleux. Et au fur et à mesure que la vie avance, il est un peu moins merveilleux, un peu grognon, un peu égoïste, un peu lâche, et on en arrive à la... attendez-moi.
C'est sympa comme bouquin.
Ouais, vous allez voir, c'est pour parce qu'elle est de super bonne humeur. Mélanie, elle est contente d'avoir des trucs comme ça. On arrive à la phrase, ben on mange quoi ce soir, hein, le truc sympa. Et elle s'accroche, et jusqu'à quoi tomber enceinte, parce que c'est aussi elle son idéal de vie. Et tout d'un coup, elle s'interroge en se disant, est-ce que finalement cet idéal tant recherché vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'est cette quête d'une femme d'aujourd'hui qui se dit que les hommes ne la méritent pas, mais qui pour autant ne rêve que d'une chose, c'est de tomber follement amoureuse.
Vous tournez en ce moment aux États-Unis, vous êtes en plein boulot ?
En pleine préparation, oui.
De quoi ?
D'un
film. Pourquoi vous ne nous en parlez pas ? Pourquoi vous attendez que je tire les verres du nez ?
Je vais réaliser mon premier film aux États-Unis, produit par des Américains, qui est c'est le livre Galveston, écrit par le scénariste de True Detective. Donc j'ai fait un film. Là, il y a trois jours, je mettais en scène un accident de voiture avec un plan séquence avec des flingues et plein de gens qui meurent je n'en revenais pas de faire ça.
Quel est le titre de travail ou le...
Pour l'instant, le livre s'appelle Galveston et le film s'appelle Galveston aussi.
Avec qui
Ben Foster et Elle Fanning.
Et elle n'est pas peu fière de nous raconter. Elle oublie de rappeler aussi qu'elle a été élue végétarienne la plus sexy de l'année.
Avec qui
on se demande.
Avec qui
il y a une erreur. Il y a une erreur au début. Hein. T'as qu'à te remettre tout en
je
place.
Je me réajuste.
Voilà, c'est ça.
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le
mais
faire.
Tu as raison. Des excuses.
Disque. Ah, non.
Non, des excuses à présenter, Daniel.
Ah, désolé pour Jeanne Moreau qui nous a envoyé un fax tout à l'heure. Ouais, résolument moderne pour nous dire à quel point elle avait été choquée par la comparaison faite entre sa voix éternelle et celle de Nagui, plutôt nasillarde. Elle précise qu'elle est en meilleure santé que vous, mon petit Nagui. Eh oui, on n'en doute pas. Désolé pour Nicolas Demorand, Patrick Cohen, Laura Adler et tous les piliers de comptoir de France Inter qui ont été très vexés d'apprendre que les Belges picolaient plus qu'eux. C'est vrai, il y a du challenge, les gars, faut se reprendre. Désolé pour Radiohead, dont le talent, le génie et la patate légendaire ont été salopés. Oui, je dis bien salopés par Nagui, Leïla et bien sûr Mélanie Laurent. Honte à vous, on est sur Inter. On aime la qualité, bordel. Et désolé pour tous les fans de Taratata qui ont été frappés ce matin par notre programmation de live avec dans l'ordre Radiohead, Tchaïkovski et Madonna. Nagui a compris le message. Pour le prochain Taratata, il y aura Tchaïkovski qui viendra, mais aussi Jacques Brel, Léo Ferrer et Edith Piaf pour une spéciale déconne avec sûrement des reprises de Patrick Sébastien.
Le Dernier Testament, ça a commencé et c'est jusqu'au 3 février au Théâtre National de Chaillot. Ensuite, il y aura les 9 et 10 février à Mulhouse, à la Filature. L'adaptation est co-signée par Charlotte Farcé et Mélanie Laurent, qui était notre invitée. Sa première mise en scène au théâtre, mise en scène réussie, avec une pièce qui donne à réfléchir et qui fait du bien en ce moment pour le vivre ensemble. Merci Mélanie d'avoir pris le temps de venir nous en parler à ce micro. C'est Laurent Dutch qui sera notre invité lundi. Passez un bon week-end. Et c'est Philippe Bertrand que vous retrouvez pour les carnets de campagne. Bonne journée, bonne matinée.
Merci Nagui, merci la bande. À lundi.